à toutes et à tous, il est 21h sur RTF et c'est Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30 pour vous parler de l'actualité du cinéma, l'actualité du support physique, DVD, Blu-ray. Et bien sûr, nous allons vous parler de musique de film. Alors vous le savez, ces derniers jours ont été un petit peu tristes pour le cinéma et avec la disparition d'artistes qu'on a aimés. Évidemment, je pense à Bruno Salomon, je pense également à Isabelle Mergault, Chuck Norris qui est quand même une figure importante de la série B, alors qu'il y a, évidemment, on le connaît, vous le connaissez surtout pour sa prestation dans Walker, Texas Ranger. Mais pas seulement, et on l'avait revu récemment d'ailleurs dans un Expendables. C'était l'hommage que Stallone rendait à Chuck Norris. Voilà. Et puis un metteur en scène également nous a quitté. Alors on n'en a pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'il a fait assez peu de films. Un réalisateur australien, Jamie Blanks, qui était l'auteur de Urban Legend. L'auteur est le créateur d'une franchise, puisque Urban Legend fait l'objet de suites. Et il avait également réalisé Mortel Saint-Valentin. Il avait été impliqué également dans quelques épisodes de Scream. Voilà, donc un réalisateur intéressant, plutôt un bon réalisateur, il n'a pas fait de navet. Et puis il a même composé la musique de certains de ses films. Et d'ailleurs, il avait s'était un petit peu éloigné de la mise en scène, Jamie Blanks, pour écrire justement de la musique de film. Mais il devait justement revenir sur un projet, sur un nouveau film. Mais malheureusement, cela ne se fera pas. Je crois que Jamie Blanks nous a quittés à l'âge de 54 ans. Voilà, des artistes qui nous quittent jeunes, quand même, à l'exception de Chuck Norris, qui, je crois, avait 86 ans. Voilà, donc on pense évidemment à tous ces artistes dont on reparlera très certainement dans nos émissions. L'actualité du cinéma, c'est aussi l'actualité littéraire. Et alors, dans cette actualité littéraire, je voudrais vous parler d'un livre qui vient de paraître, que j'ai entre les mains. Ça s'appelle Rosso Sangue, Rouge Sang, si on devait traduire en français. C'est un ouvrage rédigé par Jean-François Roger qui s'intéresse au cinéma italien des années de plomb. Alors, les années de plomb, en gros, c'est la décennie 60. En gros, 1969-1980-82, l'Italie est agitée de soubresauts politiques, d'attentats de l'extrême droite, de l'extrême gauche, le cinéma s'en est fait évidemment le miroir. Et c'est assez intéressant de lire cette histoire de l'Italie à travers ces films policiers ont fleuri sur les écrans transalpins dans cette décennie 70, ce qu'on appelle les poliziotteschi, ces films policiers parfois signés par de grands cinéastes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un cinéma autorisant, mais aussi un cinéma populaire. Et ce que Jean-François Roger fait dans son livre, c'est qu'il ne fait pas totalement la distinction, parce qu'il dit que ça serait une erreur en réalité, parce que souvent le cinéma de série B a ses qualités, et il y a une contamination d'ailleurs du cinéma de série A par le cinéma de série B. Donc il y a quand même un livre assez passionnant et qui retrace vraiment cette histoire de l'Italie et du cinéma italien des années 70 à travers une production assez pléthorique. Voilà, je vous conseille ce livre de Jean-François Roger. Jean-François Roger, qu'on connaît bien puisque c'est le directeur de la programmation à la Cinémathèque française et qu'il intervient très souvent en bonus dans les DVD et les Blu-ray que nouveau chroniquons. Voilà, donc ça s'appelle Rosso Sangue, le cinéma italien des années de plomb, et c'est paru aux éditions Façonnage édition, tout cela pour le modeste prix de 24 €. Voilà, donc je vous conseille, c'est vraiment très sympa. Alors, dans l'actualité littéraire, on va dire plutôt l'actualité de la presse, une nouvelle parution, un nouveau magazine, en fait c'est un dérivé de Mad Movies, ça s'appelle Classique, et en fait Mad Movies s'intéresse avec cette nouvelle publication, comme l'indique son titre, eh bien, au cinéma de genre qui a marqué la cinéphilie. Et donc, ce premier numéro, donc, bref, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas énormément de place dans le Mad Movies, dans le magazine officiel. Donc voilà, ils font un magazine un petit peu différent, qui s'appelle Classique. Et dans ce premier numéro, eh bien, qui est vraiment très intéressant, il y a un dossier sur Lucio Fulci, tout à fait passionnant, avec notamment une interview de Fabio Frizzi. Fabio Frizzi, qui a été le compositeur attitré de Lucio Fulci sur ses dernières productions, et notamment sur la trilogie L'Enfer des Zombies, Frayeur et L'Au-delà. C'est l'occasion d'ailleurs de parler d'un livre qui va apparaître très prochainement, l'autobiographie de Fabio Frizzi, qui paraît chez Artus. Alors Artus, c'est des films, voilà, des vidéos, mais parfois Artus publie des livres, et c'est le cas avec ce livre intitulé Backstage, une vie chez les morts, Backstage de Fabio Frizzi, qui arrive très bientôt, et d'ailleurs on peut déjà précommander ce livre de Fabio Frizzi sur le site d'Artus Film. Ça arrive au mois d'avril, théoriquement, donc très très prochainement, et je ne saurais que vous conseiller de précommander cet ouvrage de Fabio Frizzi. Alors en plus, comme Fabio Frizzi parle un peu et lit le français, il a pu superviser la traduction, et je pense que là on aura quand même une très belle traduction, réalisée d'ailleurs par un spécialiste de Lucio Fulci, c'est Lionel Grenier. Dans ce numéro de Classique, outre Lucio Fulci, eh bien un focus sur deux films incontournable. Tout d'abord, Le Dernier Monde Cannibale, film de Ruggero Deodato. Vous savez, dans les années 70, le cinéma italien mange un peu à tous les râteliers, et il mange aussi du côté des cannibales. Et puis, voilà, avec un chef-d'œuvre qui est Cannibal Holocaust, mais ce Dernier Monde Cannibale, qui a été réalisé avant Cannibal Holocaust, eh ben c'est plutôt une réussite, et le magazine Classique de Mad Movies revient sur ce film de Ruggero Deodato. Autre focus, c'est La Tarentule au ventre noir, le film de Paolo Cavara, qui vient de sortir chez Carlotta, dans une très belle édition d'ailleurs. Et donc, c'est tout à fait passionnant. Un dossier également consacré à Seijun Suzuki. Seijun Suzuki qui est à l'honneur, puisqu'en fait, de nombreux films de Seijun Suzuki seront projetés. Voilà, ils sortent en salle à Paris. Nous, on n'aura pas malheureusement la chance de les voir. Mais une rétrospective en 8 films arrive. Et ce sera l'occasion de redécouvrir cet important cinéaste nippon. Voilà donc, je vous conseille franchement cette nouvelle publication Classique, présentée par Mad Movies, et puis ce livre fondamental, essentiel si vous aimez le policier italien, ça s'appelle Rosso Sangue, écrit par Jean-François Roger. Je viens juste de le commencer, hein, je l'ai parcouru quand même, mais voilà, c'est érudit, mais facile à lire aussi, hein, c'est intéressant, parce que on apprend des tas de choses, et c'est tout à fait passionnant. Mon cher Laurent, bonsoir, comment vas-tu ?
Bonsoir, ma foi, plutôt pas mal, parce que cette semaine a été extrêmement prolifique sur un plan cinématographique, on vous en dit pas plus, parce que ça fera partie de la sélection de cette semaine, entre autres, enfin une partie, hein, parce que...
Oui.
Voilà. Et donc, il est vrai que là, on a, sur question sortie, ils ont placé quand même la barre assez haute, et ma foi, je crois qu'on flirte quand même avec quelques petits chefs-d'œuvre quand même. Hein,
ouais. Oui, c'est vrai qu'on a vu quand même de bons films cette semaine, il faut bien le dire.
Voilà.
Donc, on n'en dit pas plus.
Mais oui, voilà. Soyez fidèles à l'intégralité de l'émission, et puis vous pourrez profiter, je dirais, de cette sélection. Et puis bon, on a des films aussi en attente qu'on a déjà vus depuis la semaine dernière, donc on vous en parlera courant de l'émission, on va dire. Alors, rejoignant un petit peu cette publication de Mad Movies, ça fait bien sûr écho à cette célèbre revue qu'avait lancée L'Écran Fantastique, qui était autre que Fantastica.
Exactement.
Et qui fait partie, ça et là, de certains hors série. Mais bon, à une certaine époque, ils avaient fait aussi une revue tout à fait distincte pour parler en fait du cinéma de patrimoine, cinéma fantastique, et qui, ma foi, était assez intéressante, avec en tout cas bien documentée et aussi bien agrémentée de belles photos d'époque. Donc voilà, c'était assez intéressant pour nous qui sommes des passionnés de ce genre de cinéma de genre, mais aussi des grands classiques de ce cinéma.
D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'écran fantastique vient, c'est peut-être ce que tu allais dire d'ailleurs, vient de publier un ouvrage qui est un panorama du cinéma fantastique français. Et ça, c'est assez rare pour être souligné.
Oui. Donc là, cela aussi, ça peut être aussi très intéressant. Mais en général, bon, les publications de l'écran fantastique sont relativement, je dirais, bien conçues et surtout, voilà, bien documentées. Et aussi, voilà, il y a un juste équilibre. C'est assez bien. Il y a une très très belle politique éditoriale chez ce magazine.
Ah oui, moi j'adore. Je crois que c'est le premier magazine que j'ai acheté. L'écran fantastique dans les années 70. Puis après, j'ai enchaîné avec Mad Movies, Starfix. Ouais.
Bon, après, c'est bon, y a une équipe un petit peu commune aussi. Hein. Y a un noyau qui reste bien fixé. Et puis bon, il y a toute une époque, en tout cas sur Mad Movies, avec Alain Chlokhoff qui avait sorti aussi des ouvrages hein, sur la série
Jean-Pierre Puters peut-être davantage aussi, par rapport à sur Mad Movies.
Oui, mais il y avait aussi Chlokhoff. Enfin, c'est vraiment les deux.
Chlokhoff et Jean-Pierre Puters. Ouais. Il y avait eu Midi Minuit Fantastique aussi. Non, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous.
On en parlait les grands anciens en fait.
Oui, exactement.
Allez, on va débuter comme à l'accoutumée avec la musique.
Ah bah oui, avec plaisir.
Et donc pour une partition extrêmement réussie pour un film. Ben on parlait de science-fiction. Eh bien, c'est un petit peu le cas quand même. Hein, 2018. Alors, c'est quand même relativement récent par rapport à certains films qu'on vous propose, enfin en tout cas en termes de musique. Là pour le coup, on va écouter une partition signée Alan Silvestri pour un film, donc comme je le disais, de 2018, où on retrouvait Ty Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance, Simon Pegg, et bon, vous l'aurez peut-être deviné, c'est Ready Player One
de Spielberg.
Ouais. Et là, forcément, ce qui est un petit peu surprenant, bah oui, il y a pas de John Williams.
Ah non, c'est vrai.
C'est Silvestri, mais c'est vrai qu'il y a quand même, je dirais, quelques petites réminiscences williamsiennes, oui, si je puis dire.
Tout à fait. Non, et puis en fait, c'est pas finalement, c'est plutôt une bonne idée, Silvestri, puisqu'il avait quand même écrit la musique d'un film culte des années 80, parce qu'en fait, Ready Player One, c'est aussi un hommage aux jeux vidéo et au cinéma des années 80, puisque voilà, Retour vers le futur, c'était Silvestri.
Oui, mais bon, Spielberg, on connaît très bien, c'est un grand nostalgique. Oui. Et donc, forcément, on n'est pas surpris par ce projet, et qui nous avait beaucoup plu à l'époque de sa sortie. Mmh. Et musicalement, en tout cas, c'est une très très belle partition de Silvestri. Partition orchestrale, symphonique, et on va écouter eh bien un large extrait qui s'intitule les end credits, hein, c'est-à-dire l'ensemble des thèmes présents dans cette partition. Ça dure à peu près 8 petites minutes, et on se retrouve pour parler des nouveautés à la vidéo, que ce soit donc DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, voilà, y a pas mal de sorties, et je crois que j'ai un petit scoop à vous annoncer.
Ouh là là, mais je suis impatient de découvrir.
Voilà, je n'en dis pas plus. Allez, tout de suite, Ready Player One, Alan Silvestri.
Yeah.
rubrique vidéo.
L'actualité du DVD, c'est dans Cinéscopie et c'est maintenant sur RTF. Alors, il y a des choses qui vont arriver, des choses assez passionnantes, il y a des sorties, voilà, on est un peu hypé là. Alors, je sais pas si c'est le scoop dont tu voulais parler tout à l'heure, mais enfin bon, j'en ai peut-être un petit scoop. L'éditeur, Roboto Film. Est-ce que non, on n'est pas dans ton scoop. je regarde Laurent. Va sortir à la fin de l'année un coffret consacré à. Mais non, je vais pas vous le dire. Voilà, non, je vais laisser planer le suspense. Alors, comme c'est Roboto Film, évidemment, ce sont des films asiatiques et japonais. Voilà. Je vais juste vous donner une partie du titre. C'est Sans code d'honneur. Ça va peut-être vous parler un petit peu. Voilà. En tout cas, c'est du culte, c'est du lourd, et c'est chez Roboto Film. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cet éditeur, je ne peux que d'ailleurs vous inciter à vous procurer le coffret Zatoichi qu'ils ont publié il y a quelques jours, quelques semaines déjà, qui regroupe les 5 premiers films de la saga Zatoichi, parce que les 5 premiers, parce qu'il y en a quand même 27 au total. Alors je ne sais pas si Roboto aura les moyens de sortir la totalité du catalogue Zatoichi, ça serait vraiment génial, mais en attendant, vous avez là un superbe coffret, tout comme d'ailleurs le coffret Gamera, un très beau coffret. Voilà, toujours chez Roboto, un soin tout particulier apporté aux bonus, aux maquettes. Voilà, et les coffrets sont toujours superbes. Moi, je vous conseille franchement d'aller chez cet éditeur. Alors, il y a aussi Le Chat qui Fume, qui nous sort, qui ressort plutôt, mais dans des éditions plus économiques, des giallo mythiques. C'est le cas avec Le Tueur à l'Orchidée, qui ressort actuellement au Chat qui Fume, et qu'on peut se procurer, je l'ai vu, sur une enseigne à Limoges. De même que La Queue du Scorpion, qui, à mon avis, est l'un des meilleurs giallo, un des meilleurs gialli, si vous voulez, réalisé par Sergio Martino, avec George Hilton et Anita Strindberg. Voilà, la Coda dello Scorpione, formidable film, tourné en Grèce, c'est un petit peu surprenant. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques giallo exotiques, et celui-là en fait partie. Donc avec une très belle distribution et une très belle musique signée Bruno Nicolai. Voilà. Restons dans le giallo, puisque je crois qu'on vous l'avait peut-être signalé, mais Artus Film nous propose, dans une version intégrale, L'Homme sans mémoire, un film réalisé par Duccio Tessari avec Luc Miranda dans le rôle principal, à ses côtés Santa Berger et Umberto Orsini. Alors cet Homme sans mémoire avait déjà été édité en DVD chez Neo Publishing et Artus vous le propose en version restaurée en Blu-ray. L'histoire d'un homme qui, devenu amnésique après un accident, cherche à redécouvrir son passé. Voilà. Évidemment, ce qu'il va découvrir, c'est pas joli joli, on s'en doute bien, sinon il n'y aurait pas de film. L'Homme sans mémoire, donc je vous conseille ça. Voilà, très belle restauration 2K, et puis des bonus fort intéressants, notamment une présentation fleuve du film par Olivier Père, qui est, vous le savez, le directeur général d'Arte France Cinéma. Voilà, donc une belle édition. Restons dans le thriller avec cette fois-ci un film canadien Siège. Alors, titre original, c'est Self-Défense, réalisé par Paul Donovan et Maura O'Connell en 1983, avec dans les rôles principaux Tom Nardini, Brenda Bazinet et Darrell Henny. L'action du film se passe durant une grève de la police à Halifax. Des miliciens d'extrême droite exécutent les témoins d'un meurtre commis dans un bar gay, avant de traquer dans un immeuble l'unique client parvenu à échapper au carnage. Alors, c'est un peu une variation sur le film de John Carpenter, Assaut, hein, parce que voilà, on a des personnages piégés dans un espace clos et attaqués alors par des ici donc une milice d'extrême droite. De toute façon, voilà, c'est un film assez violent. D'ailleurs, à l'époque, il était interdit. Au minimum au moins de 16 ans, hein. Donc c'est un film assez efficace qui vous est proposé dans un combo Blu-ray DVD par l'éditeur Sidonis. Et là encore, eh bien, on retrouve Olivier Père qui fait une présentation assez solide du film. Et d'ailleurs, Olivier Père précise, et c'est vrai, il y a une séquence dans le film où les balles utilisées sont des balles réelles. Voilà, donc je pense que les acteurs le savaient quand même, hein. Je pense qu'ils ont dû avoir un peu les chocottes. Et, bon. Et puis il y a également 14 minutes de bonus, alors qui constituent des séquences envisagées pour une version longue. Voilà, finalement, le film, là, en l'état, dure 84 minutes, mais là, vous avez 14 minutes supplémentaires, si vous le souhaitez. Et puis, il y a également un livret de 24 pages dans cette édition formidable de ce thriller. C'est une série B, mais un film qui aura quand même marqué les années 80 et qui est, même si effectivement, il dérive un petit peu de films de John Carpenter. Et puis, pour terminer cette petite sélection, mais je crois, je me demande si Laurent, tu n'en avais pas parlé, mais je crois que si, mais enfin, je le redis, ça s'appelle Urgence, c'est un thriller réalisé en 85 par Gilles Béat avec Richard Berry, Fanny Bastien, Bernard Pierre Donadieu. Je pense que quand on a des acteurs de cette trempe, voilà, on peut se lancer. L'histoire d'une jeune femme qui cherche de l'aide auprès d'un journaliste après qu'un flic véreux pro-nazi qui a tué son frère la traque sans relâche pour l'éliminer. Voilà, donc une course-poursuite quasi ininterrompue pendant une bonne moitié du film et avec un Richard Berry qui donne de ses personnes dans ce thriller. Voilà, c'est Gilles Béat qui, à l'époque, avait...
Pour une fois.
Ouais, bah oui, oui, oui. Non, mais il a tourné... C'est vrai que dans les années 80, Richard Berry a tourné quelques films d'action.
Oui, hein, oui. Ouais, ouais, ouais.
Voilà. Alors, c'est Arcades Edition qui nous propose ce Blu-ray. Bon, voilà, les bonus, pas énormément de bonus, il y a quand même un historique de la vague de films policiers français de la première partie des années 80, et puis une présentation du film par Jérôme Ouibon. Donc, Urgence, je rappelle le titre, et c'est vrai que si on décide de faire une collection du polar français, je pense qu'il ne faut pas le louper, celui-là. Hein, voilà.
C'est de qualité, en tout cas.
Oui, 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 ouais, c'est plutôt une bonne pioche. Eh bien, Charles, je te laisse le micro, parce que moi, j'ai parlé de combat sans code d'honneur tout à l'heure, mais c'était peut-être pas le scoop que tu voulais annoncer.
Alors, pas du tout.
Pas du tout. Je suis tout trouillé, alors.
C'est plutôt une bonne chose que tu aies de reparler d'Urgence.
Oui.
C'est qu'en fait, dans cette même collection, il y a un autre thriller français, réalisé en 1984 par Marc Angelo, avec Sandrine Bonner, Laurent Mallet, Jean Carmé. La musique est signée au passage de Gabriel Yared pour un film déconseillé au moins de 10 ans qui s'intitule Tir à vue.
Ah oui, ça avait marqué aussi.
Voilà, qui est l'histoire d'un inspecteur de police et son adjoint qui cherchent à coincer un jeune couple de braqueurs en cavale à la gâchette facile. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être légèrement en dessous d'Urgence, parce que quelquefois, ouais, il est un petit peu maladroit dans son sorte de sérieux revendiqué, je dirais. jusque dans les dialogues assez clichés qui sont récités par Sandrine Bonner, qui s'offre autrement, d'ailleurs, sans détour à la caméra. Et peut-être, c'est ce qui est peut-être le plus intéressant dans le film.
Mais c'est pas pour nous déplaire.
Et donc, ce polar oublié, mais plutôt sanglant quand même, convoque une intéressante paire de flics composée de Jean Carmé et du chanteur-compositeur Michel Jonas, qui signe d'ailleurs les paroles de la chanson du générique de fin. Alors, au début d'une carrière de comédien nettement à réévaluer quand même, parce que voilà, Michel Jonas est un excellent acteur.
Oui, bah, tout à fait. Bon, il fallait bien commencer par quelque chose.
Tout à fait. Et donc là, pour le coup, une belle restauration de la part d'Arcadès, proposée donc en DVD, ça c'est déjà paru, mais surtout en haute définition, pour compléter votre collection de thrillers des années 80. Donc, très bien. Voilà, c'est plutôt à redécouvrir ou à découvrir. Autre film, film de l'an dernier, une coproduction Pays-Bas et Belgique, pour un film de Sven Bresser avec Gerrit Knobe, Louis Reinders, Myrthe Labré. Le film s'intitule Weedland. Alors, malheureusement, nous, on n'a pas pu le voir parce que la fenêtre de projection a été relativement courte.
Oui,
souvent d'ailleurs dans ce genre de cinéma, il y a des films qui sont proposés mais qui ne restent pas malheureusement à l'affiche. Et donc, ça raconte l'histoire d'un fermier solitaire lorsqu'il découvre le corps sans vie d'une jeune fille sur ses terres, se retrouve submergé par un étrange sentiment et décide d'enquêter. Donc plutôt le pitch est quand même relativement intéressant. Et donc c'est proposé donc par les Pays-Bas à l'Oscar du meilleur film international, mais non retenu par l'Académie, et Weedland déroule une intrigue atypique qui oscille entre le polar, le thriller et le drame social. Une œuvre volontairement lente, un petit peu contemplative, sur le monde paysan et la conscience humaine qui finira toutefois par perdre une partie de son auditoire en raison de son côté taiseux et quelque peu ambigu, comme souvent dans cet aspect un petit peu contemplatif. Le film n'est pas relativement très très long, on le doit à une production The Jokers. Le film flirte avec les 1h50, mais ça vaut quand même le détour parce que c'est quand même assez. Il y a une petite pointe d'originalité quand même dans l'ouverture de cette histoire et comment le réalisateur a pu la mettre en image. Donc vraiment ça vaut quand même le coup d'être visionné, et c'est l'intérêt aussi du support physique, c'est de pouvoir découvrir ces œuvres qui n'ont pas eu vraiment toute leur chance sur grand écran. On change de registre. Là, par contre, on va faire un grand saut en arrière. Film américain de 1926, proposé par Elephant Film, l'éditeur français dont on est fier d'ailleurs, qui a remis au bout du jour, parce qu'en fait, il nous le propose dans une édition combo DVD et Blu-ray, le film de Frank Capra, une comédie qui s'intitule The Strongman, l'athlète incomplet, qui raconte l'histoire d'un soldat belge qui recevait des lettres d'une jeune femme américaine et franchit l'Atlantique pour tenter de la retrouver. Et ça, c'est après l'armistice. Donc, c'est le quatrième génie du burlesque muet avec Charles Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd. Le trop oublié Harry Langdon, avec son faux air de Stan Laurel, qui offre une composition enfantine, touchante, mais très physique, dans ce premier film passablement agité de l'immense Frank Capra, qui mérite le coup d'œil. Donc à la réception triomphale, mais à la genèse polémique, longuement expliquée dans les bonus, qui entraînera pour les deux artistes des conséquences aussi inattendues que diamétralement opposées. C'est vraiment là une petite pépite à redécouvrir, l'émerveillement du cinéma muet à travers véritablement un grand monsieur que n'est autre que Frank Capra. Donc franchement, ça vaut vraiment le détour, surtout que pour le coup, la restauration flirte quand même avec l'excellence. Donc voilà, si vous voulez découvrir, si vous êtes fan de cinéma muet, eh bien découvrez ce programme, L'athlète incomplet, The Strongman.
Intéressant. Puis surtout que là, récemment, ils ont publié Le Mécano de la Générale de Buster Keaton, dans une superbe édition avec un commentaire musical de Carl Davis. Franchement, c'est peut-être le chef-d'œuvre de Buster Keaton, hein, ce Mécano de la Générale. Donc,
oui, surtout là, pour le coup, là, ils ont fait très très fort parce qu'ils le proposent pour un film quand même relativement ancien, directement en 4K.
Ah oui, c'est ça.
Il y a eu vraiment une restauration de haute volée pour un film. Ma foi, très 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 ancien.
Et quand on pense que Buster Keaton faisait lui-même ses cascades, il n'y a pas d'effets spéciaux à l'époque. Hein, c'était un artiste. Et puis voilà, il avait le goût du risque aussi. Et voilà, c'est à nouveau ce chef-d'œuvre immortel.
Alors forcément, il n'y a pas de rubrique vidéo sans cinéma asiatique.
Ah, je me disais quand même, ça manque un peu.
Et pour le coup, un film chinois qui a été réalisé en 2024 par Ling Zhuangjie.
Pas mal.
Oui, avec Muran Lin, Sung Jinglun et Guo Kanyo. Le film s'intitule Jetting Jianqi. Brief History of a Family, parce qu'il n'y a pas de titre français.
Je comprends un petit peu mieux. Là.
Voilà. Qui est l'histoire en fait d'un adolescent orphelin et réservé qui trouve refuge chez la famille aisée d'un camarade de lycée qui ne tarde pas à trouver son comportement assez suspect. Voilà. Donc c'est à la croisée du thriller psychologique et du drame sociologique avec en toile de fond la politique de l'enfant unique, largement assouplie depuis tout juste une dizaine d'années, après avoir structuré la société chinoise durant plus de trois décennies, eh bien ce premier film, techniquement maîtrisé et à l'atmosphère délicieusement inquiétante, souffre quand même d'une interprétation un petit peu distante, un petit peu, une certaine froideur affectée et qui affecte aussi la mise en scène. Donc franchement, pourtant le film est intéressant parce que par l'ambiance qu'il propose et donc cette évolution entre ce drame et ce thriller. Donc c'est plutôt une bonne entrée pour ce jeune réalisateur avec ce premier long métrage qui est proposé par un petit éditeur Tandem qui le propose exclusivement en DVD. Voilà. Et alors pour en terminer, alors j'en viens
au scoop.
Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps.
Voilà. Ouh là là.
Alors je sais pas si je commence par la mauvaise ou par la bonne. T'en avais régulièrement parlé, Chris, parce qu'en fait, un éditeur a retravaillé une copie d'un film très attendu depuis des années en support physique, un film fantastique. Quand je vais vous dire le réalisateur, vous allez tout de suite trouver, c'est Michael Mann.
Oui, alors, parce que Michael Mann, un film fantastique.
Oui, mais très attendu.
Ah, ça y est. Ah oui. Non. La forteresse noire.
Voilà.
Ah, c'est génial,
et
ça.
Donc, Carlotta, qui est l'éditeur, qui a proposé une nouvelle copie avec une sortie cinéma, forcément, on attendait, et on attend d'ailleurs, une sortie à la vidéo dans assez peu de temps, on va dire.
Oui, ouais. Avec impatience.
Malheureusement, dans l'Hexagone, ça va être très compliqué. Très compliqué parce qu'il y a une histoire de droit qui fait que, voilà, il y a de grandes malchances qu'il n'y ait pas d'édition de La Forteresse Noire par l'éditeur Carlotta dans l'Hexagone.
Mettons espérer qu'un autre éditeur se penche sur la question.
Alors, en revanche, il y a déjà un support haute définition qui existe, espagnol.
Ah.
Serait-ce un bootleg ? Là, par contre, je n'aurai pas de réponse. Mais en tout cas, il existe avec une version française.
Ah oui, alors ça, c'est intéressant.
Et une version originale. Et ce film, qui s'intitule... je recherche le titre parce que c'est en espagnol, forcément. El Torson.
Oui, pourquoi pas, hein, c'est bon.
Voilà. Mmh. Et donc, qui est déjà sorti début mars, chez Reason Entertainment, avec une version française en Dolby Digital, alors stéréo, hein, là on ne peut pas trop demander non plus, et une version originale sous-titrée en DTS, haute définition, donc ce qui est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal, ça, oui.
Alors, bien sûr, il y a un petit quid, c'est qu'en fait, on ne connaît pas la qualité en fait, de cette édition-là, mais enfin, elle a le mérite d'exister. Donc, au détriment d'avoir l'édition originale de Carlotta, eh bien, on va pouvoir quand même se reporter sur cette édition-là pour pouvoir profiter au moins de ce film en haute définition. Voilà.
Eh bien, croisons les doigts pour qu'on puisse procurer cette édition, qu'elle soit de qualité, et qu'un jour, peut-être, La Forteresse Noire finisse par sortir dans nos contrées. C'est étonnant que Carlotta n'ait pu avoir les droits pour exploiter ce film en support physique. Bon, écoute, en tout cas, rien n'est perdu, on va croiser les doigts, et on espère ce film, parce que c'est vrai que c'est un film culte maintenant, ce film de Meckelmann.
Et oui, et bon, déjà, je crois, en DVD, je crois qu'il n'y avait pas eu forcément d'édition officielle. Mmh. C'est un film qui, je crois que pour certains films, c'est plutôt le parcours du combattant pour les éditeurs, pour les ayants droit, qui sont assez compliqués. Il n'y a pas que ce film-là. Les films sont nombreux et pour lesquels on n'arrive pas à avoir de support physique et qu'on attend avec impatience.
Voilà. Exactement. Eh bien, merci Laurent pour cette belle sélection. Alors, voilà, il y a plein de choses qui sortent. N'oubliez pas aussi un coffret consacré à John Woo. J'y pense parce que le numéro classique de Mad Movies nous propose justement un dossier de John Woo. Avec, vous savez, il y a quelques semaines, le coffret publié chez HK Vidéo de À toute épreuve. Suivi là récemment de The Killer, qui est une sorte de démarcation du samouraï, puisqu'en fait John Woo est un cinéphile et un cinéphile qui adore le cinéma français, notamment le cinéma de Melville, et donc il avait toujours eu ce projet de rendre hommage à Jean-Pierre Melville, et il a pu le concrétiser avec ce film The Killer. Et on attend prochainement, d'ailleurs, toujours chez HK Vidéo, un autre coffret, celui-ci consacré au syndicat du crime, coproduit avec Tsoi Ark. Et là aussi, c'est une réussite. J'ai eu la chance, d'ailleurs, de voir ces films lors d'une rétrospective John Woo à Paris, il y a déjà quelques années. Voilà. Bon, en tout cas, je suis très content de les voir arriver en Blu-ray dans de très belles éditions, en ultra haute définition d'ailleurs, comme ça avait été le cas pour À toute épreuve.
Oui, et dans de très très beaux coffrets. Hein. Bon, ils sont un petit peu onéreux, mais bon, voilà, il y a quand même un gros travail de chez HK Vidéo. Ouais. Et donc, forcément, on vous invite à les découvrir. Moyennant bien sûr de casser un petit peu la tirelire.
C'est un peu le problème. De même d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il y a Warner Bros qui, je crois que c'est Warner, qui nous propose une réédition en ultra haute définition de Ben-Hur.
Oui.
Dans un très beau coffret métal.
Métal. Alors là, un petit peu cher aussi, mais c'est les grands classiques.
Oui.
C'est
incontournable.
C'est incontournable pour aller sur l'étagère de votre vidéothèque.
Ouais. Bon, voilà, donc à vous de jouer en quelque sorte et de découvrir tous ces films. Alors, on va faire une petite pause musicale puisqu'il est 21h47 à la pendule de RTF et vous écoutez Cinéscopie, le magazine du cinéma, de la musique de film. Alors est-ce qu'on écoute de la musique de film? Bah, peut-être, justement.
Bien oui, et puis là, d'un grand classique.
Oui.
1958.
Ah.
On retrouvait qui dans ce film? Peut-être un de ses meilleurs, je dirais.
Alors, on va jouer ensemble.
De ce réalisateur britannique, avec Tom Elmore, Raymond Bellé, Hélène Corby.
Ça nous aide beaucoup.
Ah. Je le savais. Film à énigmes, une romance aussi. Allez, l'actrice principale, Kim Novak. Et l'acteur James Stewart. La musique est signée par
je l'ai,
on va dire un compositeur attitré de ce réalisateur qui n'est autre que Bernard Herrmann, ouais, pour le film Vertigo, Sueur froide. Et donc on va vous le proposer sous un réenregistrement d'un compositeur, qui n'est autre que Joel McNee, qui dirige le Royal Scottish National Orchestra.
Je me souviens d'ailleurs que Joel McNeely était venu en France, à Lyon, pour les fameuses Nuits de Fourvière,
oui,
diriger un concert hommage à Bernard Herrmann.
Oui. Hein, ces éditions étaient en grande pompe. Ben, Joël McNeely avait soigné, parce qu'il avait fait quand même pas mal de réenregistrements, entre,
oui,
autres, me semble-t-il, Body It, Patton Place aussi.
Patton Place, c'était plutôt... Talgorn, je crois,
oui,
c'est
peut-être.
Frédéric Talgorn.
Mais c'était dans
cet esprit.
Dans la mouvance, oui, du label Varese Sarabande.
Oui, il faisait pas mal de réenregistrements de qualité.
Rendre hommage, oui, à ces grands compositeurs. Il y avait aussi Out of Africa, me semble-t-il.
Tout à fait, oui.
Ouais. Avec à chaque fois, quasiment, une illustration par la famille Pic. Je le dis à chaque fois, mais vraiment, là, c'était le sommet, je dirais, des éditions Varese,
oui,
à cette époque-là,
oui,
parce qu'en fait, voilà, il faisait vraiment
Bob Peake, d'abord, le père,
oui,
était un très très grand affichiste,
oui,
et Matthew Peake qui a repris le flambeau finalement,
oui,
lui,
oui,
aussi,
oui,
et qui a réalisé de superbes affiches de films.
Oui, l'affiche, en tout cas, la jaquette de la pochette de ses enregistrements, entre autres Body It, qui est vraiment superbe.
Ah oui.
Out of Africa aussi, et
c'est sublime.
Oui. The Rivers, moi j'ai un petit faible pour cette pochette qui est
elle
vraiment
est
superbe.
Incroyablement belle.
Mais qui faisait partie d'une édition chez Varese un petit peu particulière, qui était le Varese CD Club. Donc une édition limitée à très très peu d'exemplaires à l'époque,
ouais,
qui était assez excessive, mais voilà, la musique était vraiment une pépite composée
aussi,
par, ouais, Williams. Donc, allez, revenons à Sueur froide. On va écouter le prélude. Un thème que vous connaissez tous, hein, je pense.
Oui, mais c'est quand même ce film, c'est un grand classique d'Hitchcock. Hein.
Oui.
Toi, je sais que tu adores Fenêtre sur cour. Petite préférence pour Sueur froide, en ce qui me concerne.
Hein. Oui, mais j'adore Sueur froide, hein, quand,
ouais,
même. Allez, on est parti pour Vertigo, et on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine.
Thank you.
crime de la semaine, ce soir.
Le crime du troisième étage de Rémy Besançon avec Gilles Lellouche et Laetitia Casta. Et puis Les rayons et les ombres, le nouveau film de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin, Auguste Dill et Nastassia Golubeva. On va commencer par Les rayons et les ombres, qui est l'événement cinématographique de la semaine, peut-être même, il faut le dire, de ce début d'année, et sans conteste, à mon avis, en ce qui me concerne, peut-être un des meilleurs films de cette année. Alors, Les rayons et les ombres racontent l'histoire vraie de Jean Luchaire et de sa fille Corinne Luchaire. Alors, Jean Luchaire était patron de presse et sa fille Corinne Luchaire était... à la fin des années 30, à partir de 1938, devient un espoir du cinéma français, puisque Léonide Mogy va la faire tourner dans deux, trois films qui vont plutôt bien marcher, notamment le film Prison sans barreaux. Et c'est vrai que, Corinne Luchaire, devient une actrice assez intéressante. D'ailleurs, elle a un physique intéressant. Elle a un jeu assez moderne également. C'est vrai que si on regarde effectivement ses films, c'est assez étonnant. Et en fait, le destin de ces deux personnages, de ce père et de sa fille, va être bouleversé. Il faut savoir que Jean Luchaire, avant de collaborer, puisque le film, vous le savez, parle de la collaboration, dans les années 30, dans les années 20 et dans les années 30, Jean Luchaire est un pacifiste convaincu et qui veut éviter... finalement, le retour d'un conflit mondial, comme ça avait été le cas en 14-18. Et il milite pour la paix avec, d'ailleurs, Otto Abetz, qui est un professeur de dessin à l'origine, et qui est, tout comme lui, un de ses pacifistes, et francophile, voilà. Et le destin de ces hommes va changer, puisque la guerre et finalement la victoire de l'Allemagne nazie sur la France en 1940, Otto Abetz est nommé gouverneur de Paris et Jean Luchaire va continuer ses activités de journaliste en touchant d'ailleurs des subventions de l'Allemagne nazie. Alors, c'est une fresque que nous délivre ici Xavier Giannoli, puisque le film dure 3h15. Et il fallait bien ça quand même pour nous raconter le destin de ces trois personnages, parce qu'en fait, le film nous est raconté tout d'abord du point de vue de Corinne Luchaire. Le film, en fait, c'est une sorte de flashback, puisqu'au début du film, Corinne Luchaire enregistre sur un magnétophone à bande son histoire. C'est-à-dire que le film doit commencer, je crois, en 1948, soit 2 ans, je crois, après que Jean Luchaire ait été fusillé, puisque je vous spoil pas le film, parce que tout ça, c'est connu. Et donc, elle décide de raconter ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment finalement de pacifiste devient-on, collabore-t-on avec l'ennemi finalement? Qu'est-ce qui fait que petit à petit on change de camp, on perd ses idéaux?
C'est un film extrêmement dense parce que en fait, et c'est pour ça de par sa longueur, on voit progressivement perdre les repères sur les différents personnages et glisser de façon je ne dirais pas toujours consciente dans la collaboration.
Peut-être que la métaphore de ce glissement, c'est la tuberculose, puisqu'en fait Jean Luchaire et tout comme sa fille sont tuberculeux en fait.
Oui,
d'ailleurs, Corinne Luchaire mourra de la tuberculose en 1950. Ça finira par la tuer. Et Jean Luchaire, lui aussi. Alors, et c'est montré comme
Un mal pernicieux.
Un mal pernicieux. Tout à fait. Il y a une contamination comme ça sournoise qui se produit. C'est le mal qui gangrène petit à petit, les individus en fait. Alors c'est montré de façon assez assez subtile parfois. Je trouve qu'il y a quelques plans.
Je dirais que c'est vraiment subtil sur toute la longueur parce que comme je le disais, ça aborde vraiment beaucoup de situations avec justesse, ce qui n'est pas toujours facile, de trouver la bonne distance. Et là, pour le coup, c'est à chaque fois, c'est vraiment au cordeau, une très très belle écriture. Peut-être d'ailleurs, je dirais, dans la forme, peut-être avec une structure quasi identique aux Illusions perdues.
Oui, d'ailleurs, il y a un certain nombre de similitudes. D'abord parce que le héros, entre guillemets, du film est journaliste.
Oui.
Et que la presse jouait déjà un rôle important dans les Illusions perdues.
Tout à fait. Mais en tout cas, dans l'angle d'attaque de cette histoire, c'est véritablement avec beaucoup de maîtrise, je dirais beaucoup de maestria aussi, parce que ce film, avec le recul, quand il se termine, il est tellement dense que je crois qu'il mériterait quand même aussi d'être visionné pour vraiment apprécier, je dirais, toute cette partie de glissement des différents personnages. Quelque part d'ailleurs, ça les rend très humains, même si c'est l'horreur en fait. Et d'ailleurs, l'horreur qui est, je dirais, recadrée, bien recentrée par un Philippe Torton sur le final, qui rajuste en fait un récit qui est un petit peu déformé par le personnage, parce que voilà, les arguments qui sont annoncés pour en fait pour apporter à sa défense, je dirais, dans les différents faits auxquels il a été confronté, eh bien il y a vraiment la sanction je dirais de la justice qui explique de façon tout à fait clairvoyante, je dirais, les dérapages et les différents les différents comportements qui sont je dirais justiciables, et donc du coup alors que dans le fil du film, on a l'impression que ces faits sont tout à fait normales et quelque peu totalement humains, je dirais.
Oui, alors si tu veux, effectivement, c'est là où je pense que le film... Alors, je trouve ça intéressant quand même. C'est-à-dire qu'on éprouve finalement de l'empathie pour ces personnages.
Oui, mais je pense que c'est tout à fait volontaire, ouais, dans la forme et la réalisation, de montrer qu'en fait, ces personnages sont quelque peu attachants.
Oui, on a l'impression qu'ils sont malmenés un peu par l'histoire,
mais
alors que bon, ils ont fait des choix. Et alors c'est vrai qu'effectivement, la scène du procès à la fin, avec... Philippe Torreton en procureur vraiment impérial, nous rappelle effectivement la dimension abjecte de la collaboration. C'est parce que je pense que là, il a eu peur, Giannoli. Il fallait finir comme ça, parce que sinon, ces personnages, on pourrait presque leur trouver des circonstances atténuantes. Tu vois le truc. Et alors... Bon, il y a quand même cette histoire. Est-ce que, alors effectivement, pourquoi on voit que le personnage de Jean Luchaire, c'est quelqu'un qui vit un peu dans le luxe, mais qui vit au-dessus de ses moyens. Voilà, depuis le début, dans les années 30, il a
largement.
Voilà, il a un journal, mais il n'a pas un lectorat énorme. Il dépense sans compter. D'ailleurs, bon, voilà, c'est la faillite à un moment donné. Et quand les nazis occupent Paris, ça lui permet de relancer cette activité et finalement de repartir dans cette vie d'opulence.
Le film est intéressant parce que on part de faits tout à fait, historiques. Et en fait, il y a, on va dire, une migration dans des comportements. Et avant d'arriver à la collaboration, eh bien, il y a ce qu'on appelle la compromission. Et c'est là où, le virage du glissement des différents personnages est abordé et totalement décortiqué. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Hormis je dirais cette histoire, eh bien c'est ce phénomène de exposé à une situation qui va ouvrir à la compromission et c'est qui va devenir de plus en plus importante pour arriver eh bien, à la finalité de la collaboration.
Mais alors, il y a toute cette dimension que tu rappelles, qui est vraiment au cœur du film, mais il y a quand même aussi, j'ai trouvé dans ce film, c'est pour ça aussi qu'on aime ces personnages, entre guillemets, toujours je mets des guillemets, hein, il faut mettre beaucoup de guillemets dans ce film. C'est quand même aussi l'histoire d'une relation père-fille. Et ça c'est quand même... je trouve que c'est assez réussi.
Oui,
tout se passe, c'est des regards échangés, ou des regards qui ne le sont pas, justement.
Oui, parce que c'est assez... cette relation est assez fusionnelle.
Oui, c'est ça. Et donc, il y a des... de très belles séquences. Alors, il y a des séquences même des fois assez dures. Je pense notamment à la séquence du sanatorium. Je pense aussi à la séquence à la fin, lorsque évidemment Jean et sa fille Corinne sont rattrapés
par leurs actions.
Et dans une scène qui, alors je ne sais pas si elle est vraie cette scène, mais ça m'a fait penser à la Tio Chiara avec Sophia Loren et à Jean-Paul Belmondo. Il y a une scène comme ça. Assez terrible, ou une scène de viol, finalement. Ouais, Mais alors, bon, on va pas tout dire, mais c'est vrai que c'est cette relation père-fille, moi, j'ai trouvé ça assez touchant. Et puis, peut-être la possibilité, quand même, peut-être une rédemption, peut-être, puisqu'à la fin, Léonine Mogui, qui est le cinéaste ukrainien, mais juif, revient vers Corinne Lucher pour lui proposer un tournage. Alors, Corinne Lucher, elle, qui est frappée d'indignité nationale, ne peut plus exercer en France, mais lui dit, tu vas venir en Italie.
Je crois que le personnage de Léonide est il incarne en fait la sagesse, ouais. Le sage.
Peut-être qu'il a compris que Corinne Lucher, finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience politique, ou peu.
Oui, ouais, puis
c'est toujours ambigu dans le film, hein, quand même. Hein,
Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être le fait de... ça n'excuse pas tout, mais le fait qu'elle a été vraiment aspirée dans ce tourbillon, alors qu'à la différence de son père, quand même, où en fait il y a une volonté...
Il a peut-être lui voulu la protéger, peut-être.
Oui, mais puis la compromission, ça a été une de ses volontés, parce que on ressent quand même à travers son métier une véritable passion dans le journalisme.
Ah oui,
et donc, quoi qu'il en coûte, pour l'exercer, il sera capable de faire les pires choses.
Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, effectivement.
C'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de ce film,
ouais.
Et donc qui expliquent les comportements de ces différents personnages.
Et un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même aussi central, c'est celui de Otto Abetz.
Mais je dirais que peut-être que la gangrène arrive par le biais de ce personnage-là.
Qui, dans les années 30, n'est pas encarté chez les nazis,
oui.
Mais finalement qui, par la force des choses, va finir par devenir nazi. Hein, mais sans peut-être, alors, c'est toujours très nuancé.
Voilà, parce que je crois que quelque part, il y a quand même véritablement un état de conscience de ce personnage, et oui. Les arguments avancés sont aussi des arguments d'excuses. Et d'explication du pourquoi, du comment. Alors, c'est pour ça que je fais un petit peu général sans trop rentrer dans le film pour éviter de trop spoiler pour que vous puissiez quand même aller le voir. Mais je crois que, quelque part, depuis le départ, je crois qu'il y a il y a peut-être aussi une histoire de vengeance de ce personnage par le biais que la France l'extradit, en fait. Le retour, je pense que quelque part l'objectif il est clair, pour faire accepter une politique inacceptable en fait, il use de certains arguments qui ne sont pas des arguments, qui sont
ce qui est formidable avec l'acteur qui l'interprète, hein, c'est qu'on voit bien, il arrive à exprimer justement à la dualité des sentiments, en fait. C'est-à-dire que, à un moment donné, dit, c'était une histoire avec ma conscience, mais c'est vrai que on sent bien que voilà, il est pas dupe.
Il y a quand même une interrogation, c'est-à-dire, est-ce que véritablement il travaillait en adéquation avec les forces allemandes? Il y a une inconnue. Le film ne répond pas véritablement à cet inconnu-là, mais en fait, je pense que c'était pas le sujet du metteur en scène. Là, c'était dans une situation donnée. Quel aurait été bien le choix, parce qu'en fait,
oui, qu'est-ce qu'on aurait fait?
Parce que en fait, tous les personnages ont toujours eu le choix, en fait, même si c'était quelquefois cornélien, mais ils ont toujours eu le choix.
Et
c'est ce que dénonce d'ailleurs au final Torton dans le personnage de procureur.
Voilà. Après, bon. Alors. Il y a quand même des défauts dans le film. Je trouve quand même que, je ne sais pas si c'est d'accord. Je trouve que tout d'abord, le film est quand même assez démonstratif. Par ailleurs, la voix off, je trouve qu'il y en a trop. Je trouve que parfois elle est quand même un petit peu redondante. C'est un peu trop explicatif, quoi, avec cette voix off. Je trouve ça un peu dommage. Et ce, d'autant plus. Alors, moi, j'aime beaucoup l'actrice. Alors, je ne la connaissais pas. L'actrice Nastia Golubeva, Carax, d'ailleurs, parce que c'est la fille de Léos Carax. Je trouve qu'elle est vraiment impeccable dans le film. C'est peut-être effectivement la révélation du film. Mais elle a quand même un défaut, cette actrice, qu'elle partage d'ailleurs avec beaucoup d'actrices de sa génération. Et déjà depuis quelques années, il y a beaucoup d'actrices comme ça, même Virginie Efira, sont des actrices qui n'articulent pas. Et donc, je suis désolé de le dire, mais même en voix off, alors je sais pas, je pense qu'il y a peut-être un problème de mixage, même en salle, j'ai pas forcément compris tous les mots. Alors j'ai quand même compris le sens globalement du film, bien sûr, mais ça me pose un gros problème.
Alors moi, je te conseillerais un petit sonotone.
Ouais. Voilà. Donc si tu veux, ça c'est quand même c'est très 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 embêtant, parce que bon, elle joue vraiment très bien et le casting dans son ensemble est vraiment formidable. Je trouve qu'il y a des acteurs sont bien choisis. Alors Jean Dujardin, il est bien. Alors le problème, c'est que moi, c'est moi qui ai un petit problème avec Jean Dujardin. J'ai un peu de mal, mais ça, c'est parce que je sais pas, c'est parce que j'ai vu dans les comédies, je sais pas.
Alors moi, je partage pas du tout ton avis là sur.
Ouais, ouais. Il est bien dans le rôle.
Non, mais je crois que globalement, sans embâge, je dirais que c'est un de ses meilleurs rôles.
Ah oui, par contre, oui.
Je crois que là, il a décroché vraiment le. Je pense que ça va se finir avec des récompenses.
Non, mais
parce que
là, je fais la fine bouche, mais non, c'est vrai que.
Je pense qu'on touche vraiment dans le jeu d'acteur vraiment à la perfection. Donc, franchement, je ne suis pas un grand fan de Jean Dujardin, mais bon, je trouve que c'est.
Non, mais il est bien,
c'est un bon acteur.
Bien,
mais
oui,
là,
oui.
Véritablement, par. Le fait de ce qui fait transparaître, ce qui n'est pas toujours très facile,
il convient très bien au rôle, parce qu'il y a une dimension chez le personnage, un peu fanfaron, parce que il aime bien la bonne chair, donc il aime bien les femmes, il aime bien les cocktails, les trucs. Donc ça colle bien, il colle bien au personnage. Voilà. Mais quand même, je trouve que c'est un petit peu appuyé de temps en temps. Et puis surtout, je dis cette voix off envahissante. La musique de Guillaume Roussel. Je suis sorti du film, je me souvenais pas qu'il y avait de la musique.
Alors ça, je suis un peu déçu quand même. Même si
oui,
c'est
je
pas.
Je m'attendais à beaucoup mieux. Hein.
Alors si c'est pas une grande partition, en tout cas, il y a quand même une atmosphère par moment qui est assez intéressante de Roussel. Bon après, le film. Véritablement, est-ce qu'il était, extrêmement porteur à permettre une partition Je pense qu'il ne fallait pas une musique trop envahissante non plus, dans ce registre-là.
Oui, c'est possible. Oui, c'est possible.
Moi, je compare un petit peu le film, mais ce n'est pas le même sujet. à l'armée des ombres.
Oui, tout à fait.
Parce que par l'atmosphère assez noire...
J'ai quand même trouvé, moi j'avais un petit peu peur, notamment de la photographie de Christophe Bocarne, parce que j'avais vu des photos de ça, je m'étais dit, tiens, ça va être une photo, ça va être un peu monochrome hein, comme film, on va être dans les gris, et pas tant que ça, je trouve que c'est une photographie qui reste assez lumineuse. Si tu veux, moi j'ai plutôt été conquis finalement par la photo.
Mais non, mais moi.
C'est filmé en scope aussi, il faut le dire.
Franchement, moi j'ai pas été. J'ai vraiment pas été déçu du film. Alors je rejoins sur un point où en fait, ça peut être un petit peu indigeste, c'est la présence, la trop grande présence, je dirais, de la voix off. Qui, pour ma part, sur le métrage, sur la durée, est quand même relativement présente. Mais enfin, pour le reste, j'ai pas retrouvé véritablement de grands problèmes, tant sur l'écriture, la réalisation. Vraiment, il y a une très grande justesse dans le film. Et c'est vrai que on est quand même assez proche de ton chef-d'œuvre. Hein.
C'est vrai, c'est un film vraiment passionnant, très riche, très dense, tu le disais tout à l'heure. Et ce qui fait que on ne voit pas vraiment passer les 3h15, hein, parce que 3h15, voilà, c'est quand même pas anodin. Alors, moi, franchement, j'aurais mis quand même une petite entr'acte. Voilà, c'est comme pour The Brutalist. Petite pause de 10 minutes.
Alors là, pour le coup, parce que The Brutalist, il fallait quand même.
Oui.
Parce que ça relevait quand même, par moments, c'était pas facile quand même.
Ça c'est vrai.
De rentrer dans le film. Là, on est moins quand même dans ce problème.
Non, c'est vrai qu'une fois qu'on est, il y a quand même une forme de romanesque tout de même. Et c'est vrai qu'on est pris quand même par cette histoire. La reconstitution, quand même, moi j'ai trouvé assez réussie, la reconstitution historique.
Oui.
Hein, et puis donc le choix finalement de rester toujours du côté finalement de cette sphère intellectuelle, de mondaine. J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait un peu penser d'une certaine manière aussi, toi tu parlais de Melville, tu parlais de l'armée des ombres, mais ça m'a fait penser à Paul Verhoeven et à des films comme Soldiers of Orange ou Black Book. Ça m'a fait penser un petit peu à ça aussi. Donc voilà, en l'état, c'est vrai que je mets quelques bémols. J'ai beaucoup aimé ce film tout de même. Ça reste, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un des meilleurs films de l'année, je pense.
Est-ce qu'il y a aussi, ce que je voudrais insister, c'est, on en avait un petit peu parlé avant de voir le film, c'est le choix du sujet qui a été quasiment peu ou pas traité au cinéma et qui reste quand même un volet extrêmement pédagogique aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un film majeur de par son sujet aussi, et donc là encore, ça donne un peu plus de force, je dirais, au projet et au film. Et donc là, c'est ce qui, à mon avis, le met vraiment au-dessus du lot, parce que tout simplement, il y a cette originalité, cette façon de l'aborder avec vraiment une grande maîtrise, et aussi cette dissection des sentiments humains et des comportements humains qui est vraiment assez unique en tout cas dans au cinéma.
Et je pense que Xavier Jannoli a voulu que ce film entre aussi en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des scènes, notamment une conférence de presse au début du film où des idées sont échangées, où c'est assez curieux effectivement. On pense un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, un des premiers plans du film, peut-être le premier plan, qui est un plan sur un miroir, est assez symbolique. C'est-à-dire qu'il nous tend ce miroir, il dit voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait ? Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il nous dit, ce film nous regarde aussi.
Je crois que c'est
un des miroirs du film.
Alors, je vais peut-être casser un peu l'ambiance, mais c'est peut-être une sorte de parallèle avec une chanson de Goldman qui avait posé la question qu'est-ce que l'on ferait au même moment, à la même époque, quel serait notre choix ? Parce que il n'y a pas véritablement de jugement dans le film. Il y a une bonne distance par rapport au personnage sans trop stéréotyper les comportements. Mmh. Et donc,
il y a quand même le réquisitoire de Philippe Loreton à la fin du film.
Oui, mais avec une certaine légitimité aussi. Disons que ce n'est pas un parti pris par rapport. À l'action en fait du metteur en scène, c'est qu'en fait tout simplement l'histoire s'est terminée de la façon de qu'on la connaît si l'on veut, c'est-à-dire qu'en fait malheureusement Jean Luchaire
Fusillé.
Il a été passé par les armes.
Alors, Otto Abetz lui a été condamné, je crois, à 20 ans de travaux forcés.
Tout à fait.
Il a été gracié.
Dans les années 50.
Ouais, et voilà, ironie du destin, en fait, il est mort avec sa femme dans un accident de voiture, 4 ans après sa libération. Voilà, mais en tout cas, c'est un film assez passionnant. Faut bien le dire. Et on a juste le temps de parler très rapidement. Alors, on change totalement de registre, Laurent. Alors, c'est un film, moi je n'ai pas vu, Le crime du troisième étage, le film de Rémy Besançon, qui s'inscrit finalement dans son dommage à Alfred Hitchcock, et notamment son Fenêtre sur cour, que tu aimes beaucoup, peut-être pas seulement d'ailleurs, tu vas nous le dire. Donc, ce film, Le crime du troisième étage, avec un couple attachant sur le papier, c'est Gilles Lelouch et Laetitia Casta.
Alors, moi, j'ai un petit faible pour Rémy Besançon, parce qu'en fait, il y a un film qui m'a marqué et qui restera d'ailleurs, alors qu'il n'a rien à voir avec Le crime du troisième étage. Ce n'est autre que Le premier jour du reste de ta vie, qui est vraiment, vraiment excellent. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir. Donc, hormis ça, je pense qu'il a quand même, très certainement, mais comme beaucoup de nos concitoyens et congénères, une affection toute particulière pour le réalisateur britannique Alfred Hitchcock. Et là, et en particulier pour Fenêtre sur cour, parce que bon, malgré tout, le film s'en inspire fortement. Malheureusement, cette inspiration vient se fracasser assez vite sur une écriture assez scolaire et qui perd d'ailleurs trop de temps dans ses citations pour faire naître de l'énergie et aussi la malice indispensable à une telle entreprise. Et donc, on avait pourtant envie d'aimer les aventures de cette professeure spécialisée dans l'œuvre du maître du suspense américain et de son mari écrivain, soupçonnant d'ailleurs leur voisin d'en face d'avoir tué sa femme et s'embarquant dans une enquête rocambolesque pour le prouver. Mais malheureusement, le réalisateur a beau convoquer le Philippe Dubroca du Magnifique, parce que là aussi, on pense quand même à Belmondo dans ce film, comme autre figure tutélaire, la mayonnaise, malheureusement, ne prend pas vraiment et ne facilite pas d'ailleurs la tâche au trio d'acteurs, parce que Casta, Lelouch, Julienne sont, je dirais, en manque vraiment d'un tremplin pour les conduire vers le brin de folie recherché, parce que en fait tout est un petit peu étriqué et c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait vraiment, en tout cas moi j'attendais à la vue de la bande annonce à un projet qui soit totalement déjanté, et là il reste un peu sage, et comme souvent dans les bandes annonces on voit vraiment l'essentiel du projet, et en tout cas les meilleures chutes sont dans la bande-annonce. Pour le reste, ce n'est que bis repetita, et c'est vraiment dommage parce que il y a de bons acteurs, parce que Casta, Lelouch, Julienne, c'était vraiment que des acteurs.
Gallienne, tu veux dire.
Gallienne, pardon.
Guillaume Gallienne, oui.
Guillaume Gallienne, pardon. Vraiment, ce sont que des acteurs extraordinaires, mais pour le coup, on reste vraiment sur sa fin. Ouais. Franchement, le film se termine. Et on se dit, ben voilà, 1h45, tout ça pour ça, pour reprendre un titre de Lelouch, mais franchement, on est quand même un petit peu désabusé, quoi. Voilà. Et bon, ça partait un petit peu bien, parce que c'était, voilà, assez, je dirais, grand guignolesque.
Oui, le projet très sympathique.
Et assez énergique, mais ça tourne très rapidement à vide. et parce que tout simplement l'écriture et le scénario n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, en tout cas de cette comédie, et surtout quand on touche aussi à vraiment des œuvres d'excellence.
Ouais. Eh bien, merci Laurent pour cet avis sur Le Crime du Troisième Étage. Mais donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est aller voir Les Rayons et les Ombres, titre inspiré de, d'ailleurs emprunté à Victor Hugo, film de Xavier Giannoli, là encore un film remarquable. Ne soyez pas effrayés par la durée, parce que franchement, c'est passionnant, hein, on s'ennuie pas dans ce film. Et voilà, la mise en scène, la photographie, les comédiens sont superbes. Et puis voilà, alors bon, il faut y aller pour se faire un avis, parce que c'est vrai que bon, la presse dans son ensemble est dithyrambique, mais il y a quelques voix discordantes par-ci par-là. Bon, bah écoutez, allez le voir et puis vous en débattrez avec vos amis. Les Rayons et les Ombres avec Dujardin, Gobuleva, qui est dans le rôle de Jean et Corinne Luchère. Voilà, il est 22h et bientôt 30 minutes à la pendule de RTF. Petite virgule musicale, peut-être avant d'enchaîner.
On est parti avec un compositeur français, mais bon, j'adore. Hein, voilà, on ne le présente plus, c'est Georges Delerue.
Ah oui, je sais, tu es un grand fan.
Voilà, pour une musique.
Il a un côté monomaniaque, Laurent, c'est là-dessus.
Pour une musique, une partition assez peu connue, en tout cas, pour peut-être ceux qui nous écoutent, ils ne l'ont peut-être jamais entendu. Pour la musique d'un film de 1982 qui s'intitule Maupassant, où là encore il y avait une excellente distribution.
Ah oui.
Simone Signoret, Claude Brasseur, Miu Miu, Jean Carmé, Daniel Gélin, Jacques Fabry, Véronique Genest, voilà. Donc
superbe pour ce film de Michel Drac, je crois.
Oui, Michel Drac. Et musicalement, eh bien, c'est une petite merveille.
Ah oui.
Et on va vous diffuser, alors non pas le générique. On a choisi un extrait, alors vraiment peu connu, qui s'intitule Le Quatuor de la Comtesse. Voilà. Mais dans ce registre, Delerue excelle.
Oui.
Et donc, j'ai pour mémoire, parce qu'il y a plein de petits extraits dans d'autres musiques de films, comme Chouan, où il y avait des menuets. Vraiment, la musique de chambre, Delerue excelle dans ce registre-là. Je sais pas si voilà, il y a Little Romance aussi qui est un peu dans cette même structure. Donc on écoute Maupassant et on se retrouve juste après. On va essayer de faire vite, hein, sur les sorties de la semaine à partir de mercredi. Allez, tout de suite, Maupassant.
voilà, c'était Georges Delerue dans ce Quatuor. Et bien maintenant, il est temps, puisqu'il est 22h36. Et oui, la pendule de RTF, vous écoutez Cinéscopie, c'est la fin de notre émission. Mais vous le savez, comme d'habitude, à la fin de l'émission, nous vous annonçons eh bien, les films qui vont sortir sur les écrans ce mercredi 25 mars. Alors je sais déjà qu'il y a un film avec Glenn Powell qui est annoncé, c'est L'Héritier. Donc je pense que ça risque d'être assez, assez sympathique, une comédie d'action qui s'inspire, je crois, plus ou moins de Noblesse oblige. Voilà. Alors, je me tourne vers Laurent, qui a peut-être le listing des films qui sortent ce mercredi.
Alors, nous allons pouvoir voir à partir de mercredi. Alors, c'est, on avait un petit peu annoncé le grand retour de Daniel Day-Lewis.
Ah oui, avec Anémone.
Avec Anémone, dans un film de son fils, ah oui. Ronan Day-Lewis. Et donc, ça sort mercredi. Et donc, on pourra le voir sur Limoges. Voilà. Bon, déjà, ça, bah, c'est une certitude.
C'est une certitude.
Il y a aussi alors, un film qu'on a pu voir, enfin, du moins, voir la bande-annonce. C'est un film de Jean-Baptiste Leonetti avec Sandrine Kiberlin, Pierre Lottin et... Le film qui s'intitule d'ailleurs Ceux qui comptent, pardon.
Ceux qui comptent, oui. C'est pas un Toledano Nakash, ça non c'est, non, c'est pas celui-là.
Ah non, c'est pour plus tard.
C'est pour plus tard.
mais oui, Ceux qui comptent. Un film qui peut être aussi assez
oui,
intéressant, comédie dramatique.
Ouais, la bande-annonce donne envie, tout à fait.
Alors, on ne s'attarde pas trop sur les pitchs, parce que c'est vrai qu'on est pris un petit peu par le temps.
Tout à fait.
L'île de la demoiselle, un film de Misha Wald, avec Salomé... de Wells.
J'espère qu'elle articule celle-là.
Louis Pérez et Candice Boucher. Bon. Voilà, film dramatique qui peut être aussi intéressant.
Film en costume.
Ensuite, nous avons La Couleuvre Noire, film là encore dramatique d'Aurélien Verne, et Le Musieux. Avec Alexis Lozano, Miguel Argel et Angela Rodriguez. Voilà. Nous pourrons aussi voir un film de Koji Fukada, c'est Love on Trial.
L'amour à l'épreuve, alors.
Voilà, avec Kyoko Sado et Yuki Kuro.
Ah, tout un programme.
Alors, un petit film d'animation.
Oui.
Lupin The Movie, La Lignée Immortelle.
Ah, écoute, moi, je suis assez fan de ce personnage, parce qu'en fait, c'est Edgar, c'est Prince de la Cambriole.
Oui.
Oui, donc c'est... il y avait déjà eu un film, je m'en remets plusieurs années, mais réalisé d'ailleurs par Hayao Miyazaki. Alors là, ça n'a rien à voir, mais c'est le même personnage. Moi, j'irais peut-être chasser à IP, j'irais bien voir ça.
Autre film de Niraj Shewan, c'est Une jeunesse indienne, Homebound. Donc, film dramatique. Et je crois qu'il y a aussi eh bien, un petit documentaire qui s'intitule « Derrière les drapeaux, le soleil » de Juanjo Pereira.
Oui, c'est un documentaire sur la dictature au Paraguay.
Et nous pourrons aussi voir « Les filles du ciel » de Bérangère Michez avec Héloïse Voile et Chirel Nataf. Voilà. Et puis n'oublions pas aussi un autre film de Cato Custera, Juliane. Donc là encore un film dramatique avec Nina Meurisse. Je ne sais pas s'il y a une lien de parenté avec...
Avec Guillaume.
Oui.
Ouais, bah peut-être.
Mmh. et aussi Laurence Rothhouft. Donc, eh bien, sans...
Oui. Donc, tu veux parler de l'héritier, je pense. L'héritier, tu vas en parler avec...
Non, je n'ai pas tout à fait fini.
Ah.
Il y en a un autre. C'est un film d'Aldreda Davisa. C'est Un jour avec mon père. Là encore, un film dramatique. Donc, dans le cadre toujours du cinéma...
C'est peut-être pas mal, ça.
Du cinéma d'auteur.
Oui. Ça a l'air bien, ça. Ça se passe à Lagos, je crois.
Il y a encore un autre film d'animation.
Ouais.
C'est l'Odyssée de Céleste, qui sort aussi à Limoges. Hein, tous ces films, on pourra les voir sur Limoges. L'ultime héritier de John... Patton Ford.
Ah oui, c'est celui-là, c'est l'ultime héritier. Oui,
voilà. Ouais. Avec Glenn Powell et Margaret Qualley. Et puis, n'oublions pas aussi un autre film d'animation, Walter Lapin,
oui, oui.
qui débarque mercredi. Et nous pourrons aussi voir un film de Kryl Sokolov. They Will Kill You.
Oui, alors ça, c'est un film d'horreur, mais un peu à la façon de Wedding Nightmare. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une jeune femme qui emménage dans un immeuble habité par des adeptes d'une secte satanique.
Oui.
Et donc, elle va devoir survivre dans cet immeuble parce qu'en fait, ils veulent l'offrir en offrande à Satan. Hein, voilà.
Alors, c'est quand même une comédie d'horreur. Hein.
C'est une comédie. C'est du humour noir, assez noir, mais c'est assez sanglant. Comme
alors, et aussi un film d'action assez explosif.
Ouais, ouais, c'est ça. Je pense ça a l'air assez délirant.
Donc voilà, là, par contre, on a fait le tour.
Très bien.
Autant vous dire que voilà, il y a quand même...
Il y en a
encore,
pour tous les goûts.
Voilà,
alors.
Pas mal de sorties. Et on essaiera bien de voir une sélection, parce que là, on pourra bien sûr, malheureusement, pas tout voir.
Et non. Alors, on vous souhaite donc une excellente semaine dans les salles de cinéma. Et tout d'abord, une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF. On se retrouve donc lundi prochain à partir de 20h30, entre 20h30 et 21h, disons. Et pour de nouvelles aventures cinématographiques, Laurent, je te souhaite une excellente semaine également.
Bien, toi aussi, à vous aussi, allez fréquenter les salles obscures. Ils annoncent un petit peu de fraîcheur, allez vous réchauffer.
En profiter, là, oui.
Voilà, faut aller fréquenter ces salles. Et puis, avec les programmes qu'il y a, je pense que vous avez de quoi meubler toutes vos soirées et toutes vos après-midi.
Et le printemps du cinéma, c'est jusqu'à demain, le 24 mars.
Alors, précipitez-vous, allez profiter de cette offre et de consommer du grand écran sans modération. Allez, passez une bonne semaine et on vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes d'RTF. Et nous, on se donne rendez-vous lundi prochain.
Ciao, ciao.